Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, pourquoi l'affaire Besson fait-elle si peu de bruit ? L'affaire Besson, mais de quelle affaire s'agit-il ? Voilà à peu près le genre de réaction, très largement majoritaire, entendue autour de nous depuis que nous avons décidé d'y consacrer une émission. L'affaire Besson, Luc Besson, cinéaste, producteur, personnage important du cinéma français. En mai dernier, une actrice a porté plainte contre lui pour viol. Une enquête est en cours. Depuis, 8 autres femmes ont témoigné dans une enquête de Mediapart pour des faits de harcèlement et d'agression. Alors on peut s'étonner que cette affaire ne soit pas davantage connue, c'est-à-dire pas davantage relayée médiatiquement, d'autant que l'affaire Weinstein, par exemple, fin 2017, alors certes d'une autre ampleur, avait été largement traitée dans la presse française. On peut aussi s'en indigné, ne pas enquêter davantage sur les faits reprochés à Luc Besson ou, autre exemple, à Gérard Depardieu, lui aussi accusé de viol, laisserait entendre que ces faits sont anodins et que certains personnages sont intouchables. Mais on peut également s'en réjouir. La France, contrairement aux États-Unis, n'aurait pas succombé aux dérives de l'après-MeToo, privilégiant par-dessus tout la présomption d'innocence. Alors pourquoi l'affaire Besson fait-elle si peu de bruit ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à quatre invités. La première de nos invités est au téléphone. Il s'agit de Marine Turki. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Mediapart. Vous suivez cette affaire Luc Besson depuis mai dernier. Vous êtes également intéressé, dans le cadre de votre enquête et de ce dossier, à la couverture médiatique française du mouvement MeToo. Pour discuter avec vous, Muriel Salmona, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Vous présidez l'association Mémoire traumatique et victimologie. Et on vous doit, c'était l'an dernier aux éditions d'Uno, le livre noir des violences sexuelles. Troisième invité, Jean-Éric Branin. Bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous travaillez sur les questions de société, notamment aux États-Unis, questions politiques. Maître de conférence à l'Université Paris II Assas. Et vous avez publié chez Priva Éditions, c'était l'an dernier, Quand l'Amérique gronde, 1968-2018. Et puis quatrième invité, là encore c'est une invitée qui est au téléphone, cette fois depuis l'île de La Réunion. Il s'agit de Florence Rowe. Bonsoir. Oh, bonjour. Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate à la Cour de Paris. J'étais en train de me demander dans quel sens était le décalage horaire avec La Réunion. Avocate donc à la Cour de Paris.
Beaucoup, il n'y en a pas beaucoup.
Vous êtes spécialisée dans la protection de l'enfance et le traitement de la délinquance sexuelle. Je renverrai à un ouvrage alors qui est un peu ancien, mais qui a sans doute un lien avec la discussion qu'on va avoir ce soir. Vous l'aviez publié en 2002 chez Belfond. Ça s'intitulait « La dictature de l'émotion ». Alors je précise tout de suite que l'idée de cette émission ce soir, ça n'est ni de condamner, ni de disculper Luc Besson. Bien sûr, ça c'est l'affaire de la justice, mais d'essayer de voir en quoi le traitement de cette affaire traduit une évolution ou pas dans la façon dont ces dossiers sont abordés depuis l'affaire Weinstein et l'affaire MeToo. Mais il faut d'abord commencer par le commencement, ça c'est logique, et de savoir de quoi on parle quand on parle de l'affaire Luc Besson. C'est la question que je vous pose, Marine Turki. C'est quoi cette affaire Luc Besson ?
Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la plainte pour viol qui a été déposée contre Luc Besson au mois de mai, parce que l'affaire part de là, mais il y a beaucoup d'autres choses derrière, et nous on a travaillé des mois, effectivement, on a recueilli les témoignages de 9 femmes qui accusent Luc Besson de comportements sexuels inappropriés. Elles décrivent toutes, à minima, des comportements déplacés, similaires, répétitifs de Luc Besson, qu'il aurait eu envers de très jeunes femmes qui travaillent avec lui ou qui étaient susceptibles de travailler avec lui. Et donc nous, la question qu'on pose dans notre enquête, c'est celle du pouvoir de Luc Besson, et puis la question de l'éventuel abus de pouvoir de Luc Besson dans un monde, on l'a raconté beaucoup, hein, le cinéma qui est marqué par beaucoup de concurrence, beaucoup de précarité aussi, et surtout des relations asymétriques entre d'un côté des comédiens et des comédiennes, et puis de l'autre des réalisateurs, des producteurs qui peuvent faire et défaire les carrières. Mais donc effectivement, au total, on a publié les témoignages de 9 femmes avec des faits qui, pour certains, sont des témoignages qui relatent des faits qui sont prescrits et d'autres qui sont au contraire tout à fait récents, comme ceux d'étudiantes de la Cité du cinéma qu'a fondé Luc Besson.
Et des faits, il faut bien le préciser, hein, qui ne sont pas tous du même ordre de gravité, hein.
Tout à fait, on l'a beaucoup dit sur Mediapart, ce sont des témoignages qui relatent des faits de gravité différentes qui vont, pour schématiser dénonciations de viol, d'agression sexuelle, du harcèlement sexuel, et puis ce qui nous a, nous, interpellés, c'est le caractère extrêmement similaires des récits, en tout cas dans la manière dont, dont ça se passe au départ, et puis le côté extrêmement répétitif.
Encore un mot sur la procédure judiciaire donc, qui est en cours. Il y a eu une confrontation entre Luc Besson et son accusatrice, celle qui a déposé plainte pour viol. Il y a des femmes, parmi celles justement qui ont témoigné pour Mediapart, qui ont aussi été entendues par les enquêteurs. On en est où aujourd'hui, Marine Turquet, en un mot de cette procédure ?
Alors, cette enquête préliminaire qui a été ouverte au mois de mai, elle a été clôturée assez récemment, puisque aujourd'hui, c'est entre les mains du procureur. Les policiers ont rendu leur enquête et c'est maintenant le procureur qui doit décider ce qui va être la suite. Il peut tout à fait classer cette affaire, il peut demander des investigations complémentaires ou il peut ouvrir une information judiciaire.
Alors, là, voilà, ça, c'était pour faire un petit peu le point, justement, sur le volet judiciaire de l'enquête, de cette affaire. Je le disais, donc, en ouverture d'émission, quand on a décidé d'intituler le programme de ce soir, l'affaire Besson. Pourquoi l'affaire Besson fait-elle si peu de bruit? On nous a demandé, voilà, mais de quel Besson vous parlez? Certains m'ont dit, ben, c'est quoi? C'est l'ancien ministre, c'est Éric Besson? Ça n'est pas très bien. Ce qui témoigne donc d'une faible médiatisation de cette affaire. Est-ce que, alors je m'adresse à nos trois autres invités, Muriel Salmona, Jean-Éric Brana et Florence Rau, vous n'allez pas répondre tous en même temps bien entendu, mais est-ce que vous êtes surpris finalement par cette faible médiatisation et est-ce que vous êtes agréablement surpris ou désagréablement surpris, Muriel Salmona?
Alors, désagréablement surprise. Alors, à la fois surprise, oui et non. Effectivement, avec le déferlement de MeToo et cette libération de la parole et surtout une libération d'une forme de solidarité, d'écoute face aux victimes, là, on peut vraiment déplorer que les victimes de Luc Besson soient pas autant entendu que l'on pourrait l'espérer, indépendamment de...
Je vais souvent sans doute rajouter dans la discussion victime supposée, puisque pour l'instant, rien n'est avéré.
Alors, le droit international dit que les personnes peuvent se déclarer victimes. Qui se déclare victime? Enfin, je veux dire, c'est vraiment un élément important. Donc, toutes ces personnes qui se déclarent victimes, c'est vrai qu'on peut être étonné qu'elles n'aient pas eu le soutien et la solidarité qu'on pouvait attendre de la part à la fois de tout l'univers du cinéma, des autres, il y a eu quand même peu d'actrices qui sont montées au créneau, et des femmes en général, alors que elles parlent de pratiques qui ne sont pas tolérables et justement qui ont été dénoncées depuis plus d'un an dans le cadre justement de tout le milieu cinématographique.
Partagez-vous le sentiment de Muriel Salmona, Jean-Éric Brana? Êtes-vous surpris et comment qualifieriez-vous, si vous l'êtes, cette surprise?
Alors, je suis surpris au regard d'autres affaires, effectivement, qui ont fait un peu plus de bruit et quelquefois beaucoup moins graves et qui sont prises dans les journaux pour défendre l'importance de la parole de la femme. Et on a l'impression que quand c'est grave, dans les accusations, on est beaucoup plus prudent à ce moment-là dans la presse, et parce que justement, il y a du pénal derrière et qu'on va vite tomber sur la diffamation, donc des attaques contre les journalistes, on va certainement en parler tout à l'heure. Donc on recule. Je vais prendre pour mettre en corrélation ce que je viens de dire, l'affaire qu'il y a eu cet été de cette jeune femme qui se fait agresser verbalement par un homme qui ensuite vient la frapper avec un cendrier, je crois bien, à l'époque. Et là, on a une agression sexuelle. Ça partait d'une remarque sexiste, puis ça devient une agression assez forte, qui a été couverte de manière vraiment très très forte dans la presse. C'est évidemment important, mais ça l'est nettement moins qu'un viol. Et pourtant, c'est vrai que dès qu'on arrive à un seuil de gravité optimum, à ce moment-là, on met tout de suite les étés noirs, parce que on veut laisser la présomption d'innocence et on veut laisser avancer l'enquête. Dans l'autre cas aussi, il y avait une présomption d'innocence, même s'il y avait une vidéo, et il y avait aussi une enquête à faire.
Et ça, donc, ça constituerait que ça surprend. Vous connaissez bien les États-Unis, c'est pour ça qu'on vous a invité justement ce soir pour faire des comparaisons. Est-ce que ça serait un point de différenciation entre justement la France et les États-Unis, c'est-à-dire le fait que la gravité des accusations quand même qui sont portées contre Luc Besson soit traité de manière aussi prudente du fait, vous le disiez, de la diffamation, du fait de la présomption d'innocence aussi, bien sûr, qui sont peut-être moins fortes, en tout cas, dans la société américaine.
Mais très nettement, c'est même tout le contraire aux États-Unis. En réalité, aux États-Unis, vous pouvez tout dire à condition que ce soit vrai. Ou en tout cas, que vous pensez sincèrement, vous, en tant que journaliste, si vous pensez que c'est vrai, vous pouvez le dire. Et si vous pouvez montrer que vous avez fait une enquête, un minimum, bah, vous donnez vos éléments. En France, vous n'allez pas être poursuivi si vous avez fait une enquête fouillée. Ça fait aussi partie de la jurisprudence, on le sait bien. Mais aux États-Unis, il n'y aura jamais d'attaque à partir du moment où l'affaire peut avoir l'air vraie à un moment. Vous êtes dans la transparence, vous révélez au public. S'il y a un danger, c'est votre devoir de journaliste de le révéler. C'est comme ça que cela fonctionne.
Alors c'est un premier tour de table qui est un peu long, forcément, d'autant plus que vous êtes cadre, mais je vais le terminer avec vous, Florence Rowe. Quelle est votre appréciation sur le niveau, disons, de médiatisation de cette affaire Luc Besson?
Alors, tout d'abord, je pense qu'il y a en France un certain nombre d'accusations d'abus sexuels chaque jour. Il y a des plaintes qui sont déposées tous les jours sur le bureau du procureur de la République. Et pour autant, on ne les médiatise pas, et Dieu merci. Je crois qu'il faut rester raisonnable. On n'a pas à se dire heureusement surpris ou malheureusement surpris. Moi, j'ai envie de vous dire quand même qu'en France, on est beaucoup plus raisonnable de ce point de vue-là qu'aux États-Unis. Et je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que la médiatisation à outrance peut avoir des effets parfaitement néfastes sur le déroulement d'une procédure judiciaire. Alors, je crois aussi qu'il y a des mots qui pèsent lourd, et quand Madame Salmona parle de victime, elle a beau invoquer le droit européen, baratin, pour l'instant, on parle de plaignante. En ce qui concerne Luc Besson, puisqu'on parle de lui ce soir, il y a une plaignante, il y a peut-être plusieurs plaignantes, mais ce ne sont pas pour le moment des victimes. Elle déclare des choses, et c'est entre les mains de la justice. Je ne vois pas très bien pourquoi, parce que c'est Luc Besson, il aurait droit à un traitement particulier. La justice, vous savez, elle mène son chemin de façon procédurière. Il y a des règles. Ces règles, elles sont respectées. En tout cas, on essaye de faire en sorte qu'elles le soient. Il peut y avoir, et les actualités récentes nous montrent que parfois on tord les droits un peu dans tous les sens, mais je crois qu'il est de l'intérêt de tous que ces règles soient respectées et que on ne réserve pas des traitements particuliers aux uns ou aux autres.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, Florence Rowe, je ne sais pas si vous m'entendez, Florence Rowe, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie dans le fait que, bah, quand on voit quand même la façon dont l'affaire Weinstein, mais aussi d'autres affaires aux États-Unis ont été abondamment traitées dans la presse française, et quand ça se passe en France, l'impression qu'il y a une frilosité qui est beaucoup plus importante. Il y a même ce terme d'hypocrisie, il était utilisé dans un article assez récent d'un journal allemand, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, article que je n'ai pas vu directement, mais qui était relayé par la revue Courrier International. On a l'impression que la distance fait qu'on s'autorise peut-être davantage de choses.
Je crois qu'aux États-Unis, les choses ne sont pas prises de la même façon. Et puis, c'est un pays quand même extrêmement puritain. Et les histoires de sexe sont traitées d'une façon tout à fait différente. Les Français ont un autre problème, c'est l'argent. Ils partiront plus vite là-dessus que sur les affaires sexuelles. Mais quoi qu'il en soit, vous parlez de Weinstein, je ne crois pas qu'il ait été condamné, et je ne crois pas qu'il y ait de poursuites, qu'il souhaite aller beaucoup plus loin. Alors, on a mené à grand bruit une campagne médiatique, très bien, mais il va en rester quoi?
Sur cette médiatisation, Marine Turki, par rapport à votre enquête, j'espère que vous êtes toujours avec nous, Marine Turki, par rapport à votre enquête, est-ce que vous attendiez peut-être à ce qu'elle ait davantage d'écho dans la presse française, et est-ce que c'est une affaire dont on parle beaucoup dans la presse étrangère?
Précision d'abord qui est très importante, nous on n'est pas magistrats, on n'est pas policiers, nous sommes journalistes et nous faisons des enquêtes de journalistes. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour rendre des décisions judiciaires. Nous avons enquêté pendant des mois et bien avant le dépôt de plainte de Sandre Van Drooy, l'actrice qui accuse Luc Besson de viol, on a enquêté pendant des mois et on ne publie pas avec une seule plainte, une seule personne qui porte plainte, je veux dire. On a 9 témoignages et c'est la question qu'on pose aujourd'hui. Combien faut-il de témoignages pour que l'on en parle, pour que la presse presse ouvre ses journaux télévisés avec cette affaire ou juge qu'à minima, ça nécessite de poser des questions, notamment au monde du cinéma. Et puis dans cette affaire, on l'a
pas dit. Faut pas dire d'ailleurs que la presse n'en parle pas du tout. Il y a quelques échos.
On va en parler. Mais juste un petit point.
BFM a fait un reportage la semaine dernière sur le sujet, mais c'est vrai que c'est plutôt l'exception.
Il y a un élément qui est déjà factuel dans cette affaire et nous l'avons démontré avec des vidéos à Mediapart. C'est la présence de Luc Besson dans des chambres d'hôtel seul à faire des castings, parfois avec des femmes qui sont mineures. Cette pratique, qui est avérée désormais grâce à nos vidéos, doit interroger le monde du cinéma. On doit là-dessus pouvoir poser des questions. Pour répondre à votre question sur les médias, je suis d'accord avec vous, il y a un certain nombre de médias qui en ont parlé, donc ce n'est pas vrai qu'on n'en parle pas. En revanche, je crois qu'aujourd'hui, personne n'a choisi de mettre cette affaire à la une, d'enquêter à son tour, et puis d'interroger les pratiques du cinéma, d'interroger le monde du cinéma sur ce qu'on met aujourd'hui sur la table.
Est-ce que vous savez, Marine Turki, si les médias américains s'y intéressent davantage, ou en tout cas différemment à cette affaire ?
Tout à fait, puisque nous, on a bien vu justement qu'on était sollicité par un certain nombre de médias à l'étranger. Le New York Times, par exemple, a fait un grand article cet été qui s'interroge à la fois sur le mur du silence médiatique et le silence aussi du cinéma français. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et puis, vous l'avez dit, le journal allemand récemment s'est intéressé, le Guardian, El Mundo en Espagne. Il y a eu quand même de nombreux articles à l'étranger. En France, il y a eu effectivement BFM qui a quand même donné la parole face caméra à trois personnes qui ont témoigné déjà dans notre enquête, trois femmes qui accusent aujourd'hui Luc Besson. Mais une précision tout de même, parmi ces 9 femmes que nous, on a pu interviewer et qui nous relatent leur récit, il y en a 4 qui se sont tournées vers la justice. Même si aujourd'hui on parle beaucoup de l'actrice Sandra Van Roy qui a déposé plainte, 4 femmes ont fait la démarche, et ce n'est pas rien, d'aller voir les policiers aujourd'hui.
Alors, quid de par exemple, alors un des arguments pour essayer, en tout cas, un des éléments de compréhension, peut-être, ou de tentative de compréhension de ces différences de traitement, ça serait la question de la différence culturelle. Alors, notamment entre la France et les États-Unis, mais on le voit aussi dans le fait que certains journaux européens, grands journaux européens, hein, Guardian, Mundo, ce sont pas des feuilles de chou, s'intéressent peut-être de manière un peu plus approfondie à cette affaire. Qu'est-ce qui ferait que la France se distinguerait, selon vous, Muriel Salmona?
Alors c'est un petit peu ce qu'on peut souvent voir, c'est-à-dire quand il s'agit de personnes qui ont du pouvoir, dans l'ensemble on se préoccupe d'eux, effectivement en termes, bon c'est normal de présomption d'innocence, mais de l'impact que ça peut avoir, mais on se préoccupe peu des victimes, et d'une certaine manière ce qu'il faut voir, c'est que la loi du silence, elle met en danger les victimes, c'est-à-dire que parler de violence et des violences qui sont subies, donner la parole à des victimes, parler de ce phénomène de société énorme, puisque les chiffres sont vraiment alarmants, les conséquences sont extrêmement graves, c'est une femme sur deux qui peut subir du harcèlement sexuel, c'est une fille sur cinq qui subit des violences sexuelles, c'est jusqu'à 16% de femmes qui subissent des viols et des tentatives de viol. Je veux dire, c'est un phénomène de société, il faut pouvoir en parler, il faut entendre les victimes, il faut les protéger. En fait, le problème, c'est la protection. Alors,
quand les gens ont du pouvoir, est-ce que ça veut dire que selon la fameuse formule, selon que vous êtes puissant ou misérable, vous ne serez pas exposé de la même manière dans ce genre d'affaires ?
Oui, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, on le sait, puisque les enquêtes qui ont bien démontré en termes de condamnation, qu'il y a très peu de condamnations, puisque sur les 10% de plaintes pour viol, il y a seulement 10% de cours d'assises, et que ceux qui sont condamnés sont dans l'immense majorité des cas, d'un niveau socioculturel plutôt défavorisé. Donc c'est un exercice de pouvoir. Les violences sexuelles, c'est pas de la sexualité, c'est pas du désir sexuel, c'est une volonté de pouvoir, de prédation, de mise dans une situation de soumission. La problématique est que la protection des victimes, c'est-à-dire qu'en France, on a vraiment pas de politique de protection des victimes, et que là, c'est ce que disait Marie Turki, c'est-à-dire que les pratiques interrogent, et qu'il faut protéger les plus jeunes. Il faut vraiment se scandaliser que des jeunes femmes puissent subir de telles agressions, de telles violences, avec les conséquences que ça peut avoir.
Florence Roux, vous êtes d'accord avec cette idée que les victimes, en tout cas les personnes qui se disent victimes, ne bénéficient pas de protection suffisante aujourd'hui en France, si ce n'est dans la législation, mais peut-être aussi dans la façon dont on traite leurs affaires?
Non, mais là, j'ai un peu l'impression de rêver. Je sais pas de quoi on me parle. Mais ça ne me surprend pas parce que je connais le discours de Madame Salmona. On vous parle de loi du silence. Mais qui est-ce qui a empêché ces jeunes femmes d'aller déposer plainte? Maintenant que on sait qu'il y a une enquête qui est ouverte contre Luc Besson, tout le monde est bien au courant, puisque quand même la presse en a parlé. Et même si on ne nous a pas rabattu les oreilles tous les jours pendant 6 mois, je pense que les gens sont quand même suffisamment informés qu'il y a une plainte ouverte. Donc en tout cas, c'est...
Ce qui peut empêcher d'aller déposer une plainte, ça peut être la peur des conséquences. Tout simplement, non,
parce que vous imaginez que c'est beaucoup plus agréable de se retrouver jeté en pâture dans les médias, vous? Vous pensez que ça, c'est constructif et que ça peut amener les jeunes femmes à se reconstruire, comme je l'entends aussi souvent? Je trouve ça parfaitement ridicule. Je pense que si une jeune femme a subi des assauts d'un homme quel qu'il soit, et qu'elle sait qu'il y a une plainte qui a été déposée et qu'il y a une enquête qui est en cours, elle peut déposer et elle peut même être protégée, puisqu'il y a tout un tas de choses qui sont prévues par la loi, par la législation, et en général, les policiers ne sont pas des tortionnaires et font en sorte que les plaintes et les déclarations soient reçues dans des conditions suffisamment sécurisantes. Vous savez, je fais ça tous les jours, hein, quand même. J'assiste des gens en garde à vue ou j'assiste des plaignants aussi, ça m'arrive. Je vois comment ça se passe de l'intérieur et ça me fait bondir quand j'entends des choses comme ce que je viens d'entendre là. C'est un créneau, parler d'Omerta, comme si tout le monde était muselé et comme si surtout toutes les femmes se faisaient violer tous les jours. J'entends aussi quelque chose qui me fait bondir quand j'entends Anne Salmona dire les affaires sexuelles n'aboutissent pas et très peu vont aux assises. Mais il faudrait peut-être un peu savoir que toutes les affaires sexuelles ne vont pas forcément aux assises. Si c'est correctionnel, ça ne va pas aux assises.
Alors, juste une courte réaction de Muriel Salmona et ensuite on passe à Jean-Éric Branard.
Juste
un petit mot.
Juste pour donner les derniers chiffres, c'est 93 000 femmes qui ont été violées l'an passé, 10% seulement qui portent plainte, et 10% sur ces 10%-là, seulement 10% qui aboutissent à des cours d'assises. Il y a moins de 10% de plaintes pour des crimes. Donc là, on est dans une situation où 90% des femmes qui subissent des viols ne sont pas, n'accèdent pas à la justice.
Jean-Éric Branat, la parole des victimes ou des personnes qui se disent victimes, hein, pour reprendre un petit peu la différenciation qui a été faite en début d'émission, elle est davantage prise en compte, davantage entendue aux États-Unis. En préparant l'émission, enfin, je crois que c'est dans une interview, j'ai vu que vous évoquiez une culture de la dénonciation était beaucoup plus, répandue de l'autre côté de l'Atlantique que chez nous.
Alors, c'est pas tant la parole des victimes qui est plus entendue, c'est qu'effectivement, on est dans une culture de la dénonciation. J'en profite pour rebondir sur l'idée qu'il y aurait du puritanisme aux États-Unis. Le puritanisme,
c'est pas vrai.
C'est le 17e et le 18e siècle, et là on est au 21e, donc on a quand même changé. Et puisque vous avez l'amabilité de citer mon livre tout à l'heure, où je parlais de 68, il ne faudrait pas oublier que 68 est passé par là. Je vous rappelle que c'était des jeunes gens qui couraient nus dans la forêt et qui adoraient surtout le sexe, la drogue. Voilà, on est très loin quand même du puritanisme, et ça c'est les États-Unis, il ne s'agit pas du reste du monde. Effectivement, on est aux États-Unis dans le même monde que chez nous. Le problème numéro un aujourd'hui aux États-Unis, c'est la pornographie. C'est ça qui pose un problème. Et souvenons-nous la campagne de 2016. Qu'est-ce qui a choqué? C'est qu'un jour, on entend une vidéo du président américain qui explique qu'il prend les femmes par la chatte, pardon, je le dis concrètement, et qui explique qu'il en fait ce qu'il veut parce qu'il a le pouvoir. Donc en réalité, on est dans cette...
Et ça l'empêche pas d'être élu.
Non, ça c'est un deuxième problème. En réalité, ce qui est important, c'est cette notion de pouvoir, d'un homme de pouvoir sur une femme et qui peut parler des femmes comme il en a toujours parlé. C'est d'ailleurs ce que je traite dans mon livre, quand il avait 20 ans, en 68, parce que c'était la culture 68. 68, c'est également la naissance de Playboy, Hugh Hefner, c'est des partous dans son château avec tous les hommes puissants des États-Unis qui viennent à Chicago pour pouvoir consommer des jeunes femmes. C'est ça quand même l'Amérique 68. Et je reviens au cœur de votre question.
Est-ce que quelque chose a changé justement aujourd'hui?
Mais bien sûr, quelque chose a changé, puisqu'on a bien vu qu'il y a un mouvement qui s'est développé, et c'est bien ce mouvement MeToo. Je réponds quand même rapidement à votre question sur la dénonciation, parce que c'est vrai que les États-Unis fonctionnent différemment. C'est une culture de la transparence. apparence. En réalité, on essaie de se protéger. C'est ça plutôt qui est le reste du puritanisme. On essaie de se protéger des maux parce qu'on est dans une culture religieuse. Il y a le bien et il y a le mal. Et le bien veut se protéger du mal. Alors, le mal, on le dénonce. Et on le dénonce comment? Si vous allez sur Internet, n'importe quel auditeur peut en faire l'essai. Vous pouvez avoir accès là tout de suite au casier judiciaire de n'importe quel Américain. Vous allez sur le casier judiciaire, Criminal Record, vous tapez FBI et vous tapez n'importe quel nom de n'importe quel Américain que vous connaissez. Vous saurez s'il a été condamné et à quoi c'est affiché. Vous connaissez quelqu'un, vous demandez s'il est pédophile, vous aurez sa photo, son adresse, son âge, à quoi il a été condamné, pendant combien de temps. Si vous cherchez si quelqu'un est poursuivi aujourd'hui, vous allez sur le site du Marshall et vous avez la photo et même la récompense qui est donnée aujourd'hui parce que ça n'a pas changé. La dénonciation, elle est partout. Il suffit de taper 999, 3x9 quand on veut dénoncer quelqu'un ou sans appeler la police. Les Américains font tout ça. Donc on est réellement dans cette culture de la dénonciation. Les Américains ont besoin de transparence. MeToo s'est inscrit là-dessus. Après un mouvement qui a duré plusieurs années, des scandales de viols dans les universités. J'ai les mêmes chiffres que madame en face. Marie, excusez-moi. Une jeune femme sur 5 se fait violer à l'université, un jeune homme sur 20, c'est effrayant.
Est-ce que cette transparence que nous décrit Jean-Éric Brana, Muriel Salmona, c'est quelque chose qui vous paraît enviable pour la France? Ou bien est-ce que ça n'est quand même pas aller très loin dans justement cette culture de la dénonciation, dénonciation, délation, hein?
Oui, alors je pense que de toute façon, le problème il n'est pas de cet ordre-là. Le problème, il est de traiter un phénomène et de ne pas tolérer que autant de femmes et particulièrement de filles, puisque les principales victimes de violences sexuelles, ce sont les enfants et c'est les plus jeunes qui subissent ces violences-là avec des conséquences gravissimes. C'est de pouvoir les protéger, c'est de pouvoir en parler, que c'est un phénomène de société et de pas le tolérer. C'est vraiment time's up. C'est-à-dire que, et c'est ça l'intérêt de MeToo. C'est-à-dire que c'est se dire on ne veut plus de ça. Il faut rappeler qu'avec l'affaire
Time's
Avenchen,
up, il faut dire à quoi ça fait référence.
Oui, ça fait référence à une fondation qui a été mise en place pour soutenir et être solidaire, mais aussi pour dire c'est fini. On ne veut plus tolérer ce phénomène-là. On ne veut plus tolérer ces violences que subissent les femmes et les filles dans tous ces contextes-là. Et on veut protéger les victimes. Après, il y a de multiples façons de le faire. On peut en discuter, mais il faut en parler. Il ne faut pas qu'il y ait effectivement de loi du silence, qu'il y ait du déni et qu'il y ait cette fameuse culture du viol aussi, où le plus souvent, c'est la victime qui est mise en cause et c'est l'agresseur qui est dédouané. Et
mais ça, c'est un phénomène. Mais il ne faut pas tomber dans la dénonciation américaine non plus, qui fait des ravages absolument extraordinaires. Mmh. Et c'est vrai que là, n'importe quelle personne attachée à l'état de droit expliquera que le droit de la défense s'applique aussi au présumé coupable, mais... parce que on a eu avec MeToo des excès absolument extraordinaires, notamment en février-mars, où ça n'a pas arrêté, où des gens ont perdu leur emploi parce qu'ils étaient accusés
d'un peu tout et n'importe quoi. Mais en France, on en est très très loin. Le problème, en France, en fait, on est toujours avec ce problème énorme où les victimes n'osent pas porter plainte, on ne les dépiste pas, on ne les protège pas, on ne leur apporte pas de solidarité et de soins. Elles sont abandonnées, hein. 83% des victimes de violences sexuelles disent ne pas avoir été reconnues et abandonnées. Donc le problème, il est là, c'est pas un problème inverse.
Marine Turki, pour votre enquête, vous avez contacté des personnes dans le milieu du cinéma, en France d'ailleurs et aux États-Unis, je crois également. Quelles ont été les réactions? Est-ce que ça a été compliqué ou pas d'obtenir peut-être des témoignages, des recoupements? Comment ça s'est passé?
Je travaille souvent sur des enquêtes sensibles et j'avoue que je n'ai jamais vu autant de portes qui se fermaient ou qu'on me fermait justement que dans le cinéma. C'est assez incroyable des difficultés auxquelles on a fait face et c'est très lié à la précarité, encore une fois, du milieu du cinéma. Mais quand on a essayé d'avoir des réactions, c'est assez intéressant parce qu'aux États-Unis, on en a obtenu tout de suite. On a eu plusieurs personnes, se disant victimes de Weinstein, qui ont réagi et soutenu les personnes qui témoignaient contre Luc Besson en France. On a eu Time's Up, que vous évoquiez tout à l'heure, qui a soutenu également ces personnes. On a eu un certain nombre de réactions. Et côté français, impossible d'avoir des réactions des acteurs, metteurs en scène du milieu. Et ça a été très difficile d'obtenir des réactions des syndicats et associations du cinéma en France. On a fini par les obtenir, mais ça a été extrêmement difficile.
Et on vous disait quoi quand on refusait ? C'était, on n'est pas au courant, il n'y a pas de problème, on attend que la justice fasse avance.
Un acteur extrêmement connu qui me dit « non, mais on verra ». Je lui dis « on verra quoi ?» Il dit « je sais pas, on verra ». Il dit « moi, je veux pas être mêlé à tout ça ». Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les enquêtes que nous, on fait journalistes, sur les affaires de violences sexuelles. C'est en France, on nous dit « je ne veux pas être mêlé à ça ». Et quelque part derrière, l'idée, l'une des personnes me l'avait dit, de « on ne veut pas être mêlé à ces affaires de petites culottes ». C'est des choses que j'ai entendues. Et donc, il faut bien comprendre qu'en France, il y a quand même l'idée que tout ça ne nous regarde pas. En France, on débat encore de MeToo, pour ou contre, en mettant sur le même plan les deux opinions, alors qu'aux États-Unis, on ne débat plus du principe de MeToo, mais de ses limites. Et donc, il y a quelque chose très archaïque en France là-dessus. Il ne s'agit pas là-dessus de briser la présomption d'innocence dont doivent bénéficier les personnes qui sont mises en cause, on est bien d'accord. Mais il ne s'agit pas, à l'inverse, de faire peser une présomption de mensonge sur les femmes qui témoignent. Et ça, c'est extrêmement important. On voit d'ailleurs cette année le décalage entre la France et les États-Unis par une date en janvier 2018. Vous avez d'un côté Oprah Winfrey qui fait un discours choc justement sur MeToo, sur les femmes. Et de l'autre côté, nous avons Catherine Deneuve et 100 femmes qui signent une tribune sur la défense de la liberté d'importuner. Donc ça doit quand même interroger. Un autre exemple très rapide, Gérard Depardieu, qui vous le disiez tout à l'heure, est visé depuis le mois d'août par lui aussi une plainte pour viol et pour agression sexuelle. 3 semaines après, Le Parisien fait la une sur Gérard Depardieu. Pas du tout sur ces accusations qu'il vise, pas une enquête sur les accusations qu'il vise, mais sur ses voyages à l'étranger. Et le titre, c'est « L'extravagant Monsieur Gérard ». Voilà, la une du 23 septembre. Il y a quelque chose de très français. Télérama, le magazine culturel numéro 1 en France, n'a pas parlé de l'affaire Besson. Les lecteurs de Télérama n'ont pas entendu parler de l'affaire Besson. Il n'y a même pas eu de réaction suscité dans le milieu du cinéma par Télérama. Et je trouve que ça doit nous interroger. À l'inverse, aux États-Unis.
Et d'ailleurs, la directrice de Télérama que vous avez contactée pour essayer de comprendre pourquoi vous répond à la fin d'un de vos articles en expliquant les raisons. Cela dit, aujourd'hui, quand même, il y a un certain nombre de comédiens qui sont interviewés dans Télérama autour de, peut-être pas de l'affaire Besson, effectivement, mais en tout cas de ces affaires de violence dans le milieu du cinéma. Je voulais juste terminer votre phrase, Marine Turki.
Oui, je disais que l'affaire Weinstein ne démarre pas d'une enquête judiciaire au départ. Elle démarre de deux enquêtes très solides de deux médias, des enquêtes qui ont été faites sur 10 mois. Et au départ, il n'y a pas une centaine de personnes qui témoignent dans cet article. Il y a de mémoire 13 personnes. Donc il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Parce que moi, j'ai eu des confrères qui me disaient « oui, mais quand même, c'est pas Weinstein ». Moi, je ne dresse pas de comparaison, mais je dis que Weinstein ne doit pas devenir le baromètre de toutes les affaires de violences sexuelles en France. Nous, on fait notre travail, c'est-à-dire de mettre sur la table notre enquête, une enquête qui, je le répète, a été faite sur des mois et des mois, bien avant le dépôt de plainte, et qui quand même montre des choses qui devraient interroger les pratiques de casting de Luc Besson, et puis ces 9 témoignages. Combien faut-il de témoignages pour qu'aujourd'hui la presse s'en empare de manière importante, avec des enquêtes, avec des questions qui doivent être posées dans le milieu du cinéma.
Ce qui donne peut-être aussi d'ailleurs, Marine Turki, une idée de la place que peut avoir l'investigation dans la presse française. Florence Rau.
Oui. Moi, je me pose une question. Quel est l'intérêt principal ? Est-ce qu'il faut absolument un grand déballage dans la presse pour toutes les accusations d'abus sexuels, ou est-ce qu'il faut que la justice fasse son travail et qu'on la laisse faire son travail ? C'est ça la vraie question, en fait. Là, on est en train de vous dire, on a enquêté, on a fait ceci, on a fait cela. Je crois qu'en France, quand même, c'est le procureur de la République, c'est un juge d'instruction qui mène une enquête. C'est très bien que les journalistes fassent ce qu'ils ont envie de faire, mais c'est pas comme ça qu'on traite les affaires judiciaires. Donc, sur l'affaire de Luc Besson, si des gens ne veulent pas s'engager, si des médias n'ont pas voulu en parler, c'est peut-être tout simplement aussi parce qu'ils ont des échos selon lesquels l'affaire serait, le dossier serait vide, ce qui est aussi également possible. Donc pourquoi vouloir à tout prix faire une affaire Besson si peut-être il n'y en a pas ? Attendons peut-être de voir ce que nous dira le procureur de la République, qui a dû, j'imagine, faire des investigations et qui a dû faire son travail sérieusement.
Jean-Éric Brana, est-ce qu'on peut aussi tirer de cette affaire des éléments d'analyse sur la place différente qu'a peut-être la presse justement aux États-Unis et en France ou en Europe?
Précisément, Florence Roux vient de mettre un point très important au premier plan. En France, on a un juge d'instruction qui fait une enquête à charge et à décharge, et c'est lui qui mène l'enquête. Aux États-Unis, il n'y a pas de juge d'instruction. Il y a un système dans lequel l'accusé et la victime ont chacun leur équipe d'avocats quand ils sont riches et puissants, puisqu'on là on parle de riches et de puissants, et c'est eux qui vont mener l'enquête et amener, mais tout ça est amené par l'opinion, parce que c'est effectivement l'opinion qui a amené tout cela au procès. Le procureur va s'en servir parce que l'opinion a poussé, et l'opinion pousse parce que la presse a dénoncé, a mis tout cela sur la table, et c'est bien le rôle que pense avoir la presse aux États-Unis et qu'elle incarne depuis qu'il y a une liberté de la presse, et Dieu sait si la liberté de la presse est défendue aux États-Unis et très importante pour tout un chacun, puisqu'il y a un amendement, le premier amendement à la Constitution qui le défend, qui avait été largement poussé par Benjamin Franklin, qui, comme vous le savez, est le père de la presse aux États-Unis, et qui effectivement sous-tend l'ensemble de cette démocratie américaine. C'est bien l'opinion qui fait la société aux États-Unis. En France, c'est différent. On a la justice. Je crois qu'il y a donc une autre vision, et la justice en France navigue au-delà de l'opinion, puisque c'est comme ça que nous le concevons.
Si on aborde la question, et pour terminer sur des problèmes peut-être plus structurels et qui vont bien au-delà de cette affaire, Muriel Salmona, puisque vous évoquiez tout à l'heure la spécificité aussi de ces affaires dès lors que ceux qui sont mis en cause occupent des postes de pouvoir. Dans le cinéma, il y a quand même eu des tentatives, des initiatives pour avoir davantage de parité, notamment dans les postes décisionnaires. Est-ce que ça, c'est, disons, la piste à suivre peut-être? Alors, une des pistes à suivre, en tout cas.
Alors, tout à fait. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les violences, particulièrement les violences sexuelles, s'exercent dans un contexte d'inégalité, de rapport de force, de rapport de pouvoir, des hommes sur les femmes, des adultes sur les enfants,
Femmes sur les hommes, autant le dire aussi, ça existe également.
Oui, mais pas du tout dans les mêmes proportions.
Ça existe également, et ça donne la même souffrance.
Et les hommes, dans l'ensemble, sont beaucoup plus agressés enfants par d'autres hommes, les victimes hommes. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut lutter, bien entendu, contre ces inégalités, mais il faut lutter contre le déni. Et le déni, il passe aussi par cette confusion entre violence et sexualité, ou par la minimisation, par la mise en cause des victimes, et il passe par cette loi du silence, où on ne va pas vouloir voir, et pour justement rebondir sur l'actualité, on voit avec l'affaire Préna et l'affaire Barbarin, à quel point l'Église à protéger les agresseurs, à quel point aussi dans l'éducation nationale on a vu des agresseurs protégés, à quel point dans le milieu du sport on a vu des agresseurs protégés, à quel point toutes les violences sexuelles incestueuses, le plus souvent ce sont les parents qui sont protégés et pas les enfants qui subissent des violences sexuelles. Et ça, il faut que ça change absolument. Il faut se préoccuper avant tout des victimes. Là, c'est un phénomène de société et la justice échoue complètement à gérer cette situation-là. Donc c'est la société aussi qui doit changer et qui ne doit plus tolérer ces situations-là, et parce que sinon, on se retrouve dans une situation où on a appris quand même, avec Infostat Justice, que depuis 10 ans, il y a 40% de condamnations en moins, et que la plupart des que dans les plaintes, c'est 73% des plaintes qui sont classées sans suite. Donc là, c'est l'impunité la plus totale.
Jean-Éric Brana, pour conclure.
Je pense qu'effectivement, c'est un problème de changement de société. Alors, on le voit très clairement aux États-Unis et notamment à travers la publicité. On va avoir dans quelques jours le Super Bowl et c'est toujours une excellente occasion de voir à quel point la société évolue à travers la publicité. Il y avait eu, il y a 5 ans, une publicité qui s'appelait C'est une fille. C'était le groupe Always qui avait lancé ça. Cette fois-ci, on va voir le groupe Gillette qui en lance une autre contre la masculinité et contre la masculinité toxique, disent-ils, dans lequel ils ne présentent même pas leurs produits. Donc, il y a effectivement ce besoin que la société change, et je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus.
La lutte contre les stéréotypes qui sont catastrophiques.
Et ben voilà, on va se quitter sur ce relatif consensus. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Jean-Éric Brana, Marine Turki, Florence Roux et Muriel Salmona. Émission que vous pourrez réécouter très vite sur notre site franceculture.fr. Vous pourrez également télécharger l'émission. N'hésitez pas également à nous écrire, soit directement par mail, soit sur Twitter. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richet, Leïla Saïdi, Virginie Leduour, Antoine Dulcer et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Peyre Legras avec la prise de son Alexandre Dang. Dans un peu plus de 3 minutes, ce sera la dispute avec vous, Arnaud Laporte, pour parler d'art plastique.
En effet, ben voilà, vous avez quasiment tout dit, Hervé Gardette, mais pas... Vous n'avez pas révélé la question du grain à moudre de demain, donc c'est le moment.
Figurez-vous que je ne l'ai pas de manière définitive, mais on va se demander en tout cas si le malaise social actuel est dû au fait qu'il y a trop d'États ou pas assez d'États.
Ouais, il va falloir trouver la formule choc dont vous avez le secret.
Un peu plus réduite.
Hein,
ouais. Il reste un peu moins de 24 heures.
Je vous surveille, je passe ramasser les copies un peu plus tard. Restez au bureau avec Gardette et écoutez tout de suite à 19h sur France Culture le rappel des titres par Aurélie Kiefer.